Bonjour, moi c'est Théo.
Et moi c'est Lily.
Nous sommes tous deux des élèves du lycée René Gosse dans la spécialité HLP, Histoire, Littérature et Philosophie.
Et on est ici pour vous présenter le projet du prix Jean Renoir.
Et donc en fait, dans le cadre de cette spécialité, nous avons pu participer justement à ce prix des lycéens Jean Renoir 2023. Et nous avons visionné 7 films, à savoir Saint-Omer d'Alice Diop, The Fableman de Steven Spielberg,
Interdit aux chiens et aux Italiens du ghetto, Nous bonnes étoiles de Kore-eda,
Revoir Paris d'Alice Winocourt, L'innocent de Louis Garrel
et Mon pays imaginaire de Patricio Guzman.
En salle, dans le cinéma Alain René à Clermont-Léraud.
On a d'abord commencé par écrire des critiques sur chacun des films pour les publier pour un concours. À l'issue de ces critiques, on a tous débattu pour débattre sur quel était leur point faible et leur point fort pour pouvoir élire le meilleur film, celui qui méritait le prix Jean Renoir.
Et donc, lors de ces votes, sont ressortis deux films. En première place, The Fableman de Steven Spielberg, et en seconde place, Revoir Paris d'Alice Winocourt.
Par la suite, nous avons été élus par les élèves et nous avons été élus ambassadeurs pour représenter notre classe. Ensuite, nous sommes allés à Paris, dans une école de cinéma, la FEMIS.
Qui est la plus grande école de cinéma de France. Et dans cette école, nous avons pu participer à des délibérations. Donc en tout, il faut savoir qu'il y avait 50 lycées participants dans toute la France, à savoir 100 élèves. Et dans ces délibérations-là, éliminés sur les 7 films, 4.
Et donc les films éliminés sont Saint-Omer, Interdit aux chiens et aux Italiens, Nos bonnes étoiles et Mon pays imaginaire.
Et donc les films qui ont été retenus, donc le premier dans mon groupe personnellement, c'était The Fableman, puis Revoir Paris, puis L'innocent. Malheureusement, dans les trois autres groupes qu'il y avait en face de moi, c'était Revoir Paris qui avait été choisi. Le débat s'avérait assez compliqué, mais nous avons tout de même débattu car cela était très intéressant. Et donc, s'en est suivie la cérémonie de remise des prix.
Où nous avons pu voir Alice Winocourt en visio et elle a pu nous remercier d'avoir élu son film sur les 7 autres.
Je m'appelle Basile. On vous présente aujourd'hui Mon pays imaginaire de Patricio Guzman. C'est un film très intéressant qui va suivre la lutte sociale d'un peuple, des manifestations extrêmement violentes et qui va du coup être très intéressant dans sa réalisation de par les plans qui vont être pris de manifestations directement dans la manifestation, ce qui est très impressionnant.
Je suis Noah. Alors ça se passe au Chili. Donc quand nous on avait les Gilets jaunes en 2019, eux ils avaient un mouvement semblable avec des grandes manifestations particulièrement violentes parce que ce pays a encore une constitution qui date de l'époque où le Chili était une dictature. Et c'est véritablement les luttes sociales d'un peuple. Ce sont des témoignages qui sont les uns après les autres avec des images prises en temps réel lors des manifestations. Par exemple, on voit beaucoup de femmes parce que la situation des femmes au Chili est réellement compliquée et c'est ce que nous montre Patricio Guzman. Il y a de magnifiques images, donc filmées au moment même des manifestations, des témoignages poignants, une musique bien appropriée et la fin qui nous laisse un peu en suspense sur qu'est-ce qui va arriver après les manifestations. Et ça, on le sait grâce à l'histoire, malheureusement, ça n'a pas donné un grand résultat. Mais le film vaut quand même le coup d'être visionné, c'est un très beau documentaire.
Ce qui est génial, c'est que déjà, les plans, y a pas mal de plans qui sont pris au drone. Et du coup, ben, c'est magnifique parce qu'on a des plans d'ensemble de cette révolte sociale qui est extrêmement impressionnante. On va être du coup au cœur des violences, ce qui en est choquant et perturbant. Et en même temps, c'est sublimé par la beauté de la lenteur des plans, enfin du rythme du film qui va sublimer un petit peu ces images. Et puis ce film rend vraiment compte d'une réalité sociale pour des femmes, des enfants, des foyers en fait, qui sont particulièrement touchants.
Et parmi les nombreux témoignages qu'on peut écouter dans ce documentaire, eh bien, il y en a une qui est Particulièrement frappant, c'est celui d'une jeune femme qui arrive masquée devant la caméra, qui ne donne ni son nom ni son prénom, mais qui explique qu'elle a un enfant en bas âge, qu'elle participe aux manifestations tout de même malgré cet enfant, et qu'elle est seule, qu'elle a été abandonnée par celui, par le père, celui avec qui elle a eu l'enfant, et qu'elle se retrouve dans la rue à taper les murs avec des cailloux, à chanter, à lutter contre les forces armées qui sont violentes, pour que son enfant ait une vie meilleure et surtout pour que ses sœurs, ses mères, ces autres femmes au Chili n'aient pas le même avenir.
On croise aussi dans les témoignages de ce film des moments où des femmes un peu plus âgées viennent se présenter, toujours masquées, ce qui est un signe de révolte. Et du coup, cette femme un petit peu plus âgée vient se présenter, dépeint sa situation qui est tout simplement affreuse. Elle ne peut même plus garder ses enfants. Elle est obligée de les laisser à la maison alors qu'ils sont en bas âge. Elle travaille de manière acharnée et maintenant se bat dans les manifestations pour récupérer ses droits. On peut bien évidemment faire un écho avec les manifestations qui ont lieu actuellement, par exemple à Paris, là où elles sont les plus violentes, les plus contestataires, où de nombreuses personnes se regroupent dans le simple but de faire du bruit devant des mairies et qui par la suite partent en manifestations dites sauvages, où le but est de faire en sorte qu'un maximum de personnes nous rejoignent et de commettre certaines dégradations, empêchant du coup l'avancée des forces de l'ordre vers les manifestants. Donc forcément, ce film résonne en nous comme un cri contestataire pour la France, du coup, qui va voir ce film comme la preuve que c'est pas impossible d'engager des luttes constitutionnelles.
Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ».
Ils ont écrit ça, papa.
Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Un peu à droite!
On ne joue pas avec la nourriture.
Il fascisme.
Le petit oiseau va sortir.
Menteur.
Bonjour, on est des élèves de la première HLP au lycée René Gosse. Moi, c'est Esther.
Et moi, c'est Inès.
Et aujourd'hui, on va vous présenter un film qu'on a vu dans le contexte du prix Jean Renoir, Interdit aux chiens et aux Italiens, de Alain Huguetto.
C'est un film, en fait, qui est fait en stop motion, qui va raconter le passé, donc l'histoire de la famille de Alain Huguetto. Et c'est des migrants italiens qui vont venir en France pour pouvoir travailler avec toute la phase de l'industrialisation. Et on trouvait hyper important de le présenter parce que déjà, il montre un aspect assez comique, même si c'est beaucoup de sujets qui sont durs parce qu'il y a eu beaucoup de morts et qu'il y a la montée du fascisme, etc. à cette époque-là.
Alain Huguetto, en plus, il nous raconte le tout en animation, donc c'est-à-dire que c'est lui qui a créé les décors, le tout est en pâte à modeler, il y a aussi des décors en carton, des petits jouets qui représentent même les animaux, etc. Et c'est vraiment très créatif, très dans un imaginaire, on a l'impression un peu de magie presque, et donc c'est vraiment agréable à regarder. Dans ce contexte où c'est un peu triste, on voit vraiment des choses assez douloureuses pour la famille, etc., il y a ce côté créatif qui nous donne envie. Il y a aussi, comme Inès, tu disais, il y a le côté, le parallèle entre lui et sa famille.
Oui, c'est ça. En fait, il va jouer entre les plans où il va insérer sa main et sa voix et du coup, le passé avec la pâte à modeler, le stop motion. Et c'est vraiment un parallèle, c'est un peu le lien qu'il fait avec sa famille parce que lui, il n'a pas connu cette histoire-là. Et du coup, ça fait pas mal... en fait, c'est connecté, quoi.
Il y a un dialogue, en fait, entre lui du présent et avec sa grand-mère du passé. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est ça qui nous a vraiment plu. En plus, on a cette envie de, nous aussi, savoir ce qui s'est passé dans notre histoire et nos grands-parents, etc. En fait, c'est l'histoire de plein de Français, d'origine italienne. Il y a plein d'Italiens qui sont venus en France pendant l'industrialisation. Et donc, c'est très intéressant de le montrer.
Je voulais juste dire aussi que c'était assez ludique et du coup, en fait, ça permet, même si c'est une histoire qui est assez choquante, d'ouvrir à un public qui va être peut-être plus jeune, contrairement à d'autres films qu'on a pu voir dans le prix Jean Renoir.
Et il faut aussi saluer le travail de Alain Huguetto qui a pris 6 ans à faire son film. C'est vraiment un art très méticuleux, ce qu'il nous a fait dans les décors, etc. Et c'est vraiment très beau. Et ce film, il faut aller le voir parce que c'est vraiment intéressant et ça raconte.
En fonction du travail, de l'idée artistique, etc. Parce qu'on ne va pas voir ça tous les jours. parce que c'est vraiment du réel avec du stop motion, avec 6 ans en plus de travail, comme tu disais, Esther. C'est l'investissement en fait qui est beau là-dedans aussi.
Moi c'est Théo.
Et moi c'est Basile.
Et aujourd'hui donc on va vous présenter le film Saint-Omer d'Alice Tiop sorti en 2022.
Effectivement il n'a pas été très bien accueilli par la critique des lycéens vu que c'est un film qui est extrêmement mature, voire même trop pour notre âge. Il raconte l'histoire d'une jeune romancière qui assiste au procès de Laurence Kolb à la cour d'assises de Saint-Omer pour le meurtre de sa fille. Donc encore une fois un sujet extrêmement joyeux, extrêmement compliqué d'aborder, mais très intéressant néanmoins.
Justement, ce procès de Laurence Colly, qui justement est exposé dans ce film d'Alice Diop. Alors, comme vous pourrez le voir, il a reçu le César du premier meilleur film, ce qui prouve vraiment cette maturité cinématographique. On retrouve des plans assez longs, avec une réalisation fine, de la musique bien choisie. Mais cependant, comme nous l'avons vu, moi comme je l'ai vu personnellement à Paris, c'est le film qui est justement revenu en 7e place à chaque fois parce que de cette maturité cinématographique beaucoup trop développée, ça n'a pas vraiment touché le jeune public. Qu'est-ce que t'en penses, Basile ?
Moi je pense aussi qu'il y a quelque chose qui joue énormément, ça va être le rythme de ce film qui va vraiment avancer à petits pas sans vraiment dévoiler à chaque fois de grandes avancées, ce qui fait que le public s'y perd forcément un petit peu. De part du coup, on a deux choses qui font qu'il est difficile à suivre, sa maturité, le sujet en lui-même qui est particulièrement compliqué d'aborder même pour certaines personnes envers eux-mêmes. Et pour finir, il y a du coup le rythme qui va être encore un frein. Mais malgré ces nombreux freins, eh ben, on peut remarquer que c'est un film qui est excellent avec des jeux d'acteurs qui sont incroyables et qui vont traiter du coup de sujets juste incroyables.
Pour conclure, vraiment, voilà, un film avec une maturité cinématographique trop développée à notre goût et surtout un sujet assez dérangeant. Cette mère qui tue son enfant, je pense que ça a vraiment touché, mais du mauvais côté, c'était assez dérangeant, assez gênant, car l'homme, quand il voit des crimes comme ça, justement, cherche à reconnaître les différences dans l'accusé pour ne pas s'identifier à celui-ci, par gêne de ce crime que Laurence Colly a produit malheureusement.
Mais c'est justement ça qui est assez impressionnant, c'est que dans ce film, cette mère ne nous semble pas si éloignée de nous, ne semble pas si éloignée du rôle d'une mère plus classique. Elle a une diction qui est excellente, elle explique, elle expose les faits de manière très claire, et même si elle ne semble pas montrer réellement de regrets puissants, elle est, ça se voit, touché de son acte. Donc on a un jeu d'acteur qui est juste impressionnant de la part de cette actrice, et on a pour des spectateurs quelque chose de réellement perturbant, surtout pour des jeunes spectateurs qui voient encore leur mère souvent et qui sont confrontés du coup à la double image qu'ils vont avoir de la mère idéale dans ce film et de la mère meurtrière, tout sauf enviable.
Complètement d'accord.
Sit there and count your fingers. What can you do? Sit there, count your little fingers, unhappy little girl blue.
Alors, même si je pense que le montrer à certains des élèves lycéens, ça peut être compliqué, même si certains l'ont apprécié, l'ont trouvé juste, beaucoup d'autres ont été presque dégoûtés par ce film et ne comprenaient pas pourquoi on leur avait emmené voir ça. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut travailler dans le droit, faire des études juridiques, je pense que ça peut être très intéressant de regarder ce film. Parce qu'en effet, le meurtre d'un enfant par sa mère, c'est ça, une affaire qui est très compliquée à gérer quand on est avocat, magistrat ou juge. Et je pense que là-dedans, on peut y voir un bon intérêt. Et je pense aussi, par nos réactions, nous, en tant que lycéens, je me demande si la réalisatrice n'a pas aussi trouvé la réaction qu'elle voulait susciter. Et justement, moi, je me souviens de longues descriptions où c'était l'accusée qui parlait. Et au lieu qu'elle nous présente ce dont elle parlait, eh ben, on le visualisait dans nos têtes. Ça, je me souviens très bien, ça m'avait marqué. Et je pense que c'est l'un des travaux que la réalisatrice a voulu mettre en place et qui, pour moi, a marché.
C'est vrai qu'Alice Diop a sûrement reçu ce César. Parce qu'elle a réussi, à juste titre,
mérité.
Parce qu'elle a réussi à susciter la réaction désirée.
Je m'appelle Anaïs et je vais vous présenter Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Koreeda. Ce film est coréen. J'ai trouvé ce film magnifique. Concrètement, il aborde un sujet qui est aujourd'hui aussi un peu tabou dans la société, donc qui est l'abandon d'enfants et le placement en famille et en adoption. Donc dans ce film, on peut voir la première scène qui est très touchante et qui, moi, m'a rendue triste, où on voit une jeune femme assez jeune abandonner son enfant qui est vraiment nouveau-né, dans une boîte à enfants. Et cette boîte, elle consiste à déposer son enfant qui va être chauffé, comme ce qu'on pourrait appeler chauffé comme un chiot, où en gros, l'enfant est placé sous lampe rouge et vraiment chauffé avec une couverture.
C'est un film du coup qui est extrêmement touchant parce que comme a dit ma collègue Anaïs, on parle d'abandon, on parle même de trafic d'enfants. Donc ça part très loin et on va scruter du coup le passé des personnages principaux qui se sont eux-mêmes pour certains fait abandonner et qui doivent vivre avec ça. Donc forcément on parle d'un sujet aussi qui est, comme l'a dit Anaïs, tabou dans la société et on vient casser ce tabou d'un grand coup. De là on va aussi développer l'intrigue. Si la mère va réussir à aimer son fils et à le chérir malgré le fait qu'il y ait eu un abandon qui va au final plus ou moins se régler. Du coup, on va suivre l'histoire d'une mère, d'un enfant abandonné et de personnes qui trafiquent des enfants, dit comme ça, ils paraissent horribles, mais qui permettent au final plutôt à des enfants abandonnés de trouver une famille et de survivre. Donc évidemment, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a aucun clivage entre ces deux termes, mais ça va toujours être du coup dans le flou et à nous d'interpréter si on cautionne d'une certaine manière ou pas certains actes et d'autres non de ce film. Et du coup, on part sur des dilemmes moraux très intéressants.
Des personnages touchants dans des scènes en fait magnifiques mais d'une toute simplicité qui racontent la vie, le voyage horrible par son inégalité et le drame social qu'il couvre et en même temps très attachant pour les personnages qu'il présente. Certains sont des pauvres, des classes populaires qui en même temps ont pitié face à cette mère, cet enfant. Et justement cette société dont on parle, c'est la société coréenne où il y a un véritable drame social toujours en cours, celui de l'abandon d'enfants. Ces boîtes à enfants existent vraiment, elles sont disposées à l'entrée des églises en Corée et elles sont faites pour que les mères qui ne veulent pas de leurs enfants puissent les déposer. Et elles ont eu l'effet inverse au final, ils se sont aperçus que depuis qu'ils ont mis en place ces boîtes, il y a de plus en plus d'enfants abandonnés. On repère quand même de nouveau une caractéristique d'actualité historique dans ce film.
Thank you.
Kore-eda, ses films sont toujours organisés autour de la famille et des enfants. Le sujet de l'enfance est très souvent abordé par ce réalisateur que je ne connaissais pas avant d'avoir vu ses films.
Mais autour de ce drame familial, en gros, on retrouve une atmosphère assez calme, avec des musiques qui ne sont pas stressantes, ne sont pas stridentes pour nos oreilles, où l'on retrouve aussi des scènes magnifiques quand même, comme une scène où on les voit dans un train et le train passe sous un tunnel et on peut voir toute la verdure du pays avec un horizon magnifique et un beau ciel bleu qui amène une décontraction dans le film et où on se sent bien.
Et enfin, je dirais le dernier élément qu'on n'a pas abordé, c'est que c'est une enquête policière. Il y a du suspense qui est mis en place avec deux autres personnages que l'on suit et qui enquêtent ces trafiquants. Et durant tout le long du film, on se demande, est-ce qu'ils vont réussir à les attraper ? Est-ce que la justice ne va pas leur mettre la main dessus ?
Malgré tout, même si ça semble difficile, Kore-eda arrive à insérer des scènes humoristiques dans des sujets si complexes. Du coup, par la bêtise, l'absurdité de certains personnages, ils vont commettre des choses qui sont, comme je l'ai dit avant, absurdes.
Et enfin, en fait, dans ce film, on peut voir qu'une vraie famille, une famille qui se soutient, une famille qui est ensemble, ça ne peut pas être forcément une famille biologique, parce qu'on voit un regroupement de personnes qui sont centrées au milieu d'un enfant, et c'est ça qui va faire aussi leur force. Et on peut voir aussi la vraie image d'une vraie famille qui n'est pas forcément biologique.
En fait, les personnages sont très bien développés et on va apprendre à aimer certains côtés de certains personnages et de détester d'autres côtés d'autres personnages, ce qui encore une fois amène à des dilemmes. En fait, c'est un film de dilemmes. À chaque fois, on est plongé soit dans des dilemmes moraux, dans toutes sortes de choix qui sont compliqués à faire envers soi-même au final, et c'est ça qui fait la profondeur du film et sa beauté.
Moi, je m'appelle Amélie.
Et moi, je m'appelle Lorelai. Et on voudrait parler du film de L'Innocent, qui est une comédie française qui a été réalisée par Louis Garrel. Et en fait, ça raconte l'histoire de Sylvie, qui est prof de théâtre dans une prison et qui va tomber amoureuse de l'un des détenus qui s'appelle Miguel. Et malheureusement, cette relation, elle est mal vue par son fils Abel, parce que ça, c'est pas la première fois que sa mère tombe amoureuse d'un détenu. Et ça s'est jamais très bien fini. Donc Maël, il a beaucoup de préjugés sur Miguel.
Ben justement, c'est un film assez familial, enfin pas dans le sens où on va le regarder en famille, c'est justement une affaire de famille parce que ils vont se retrouver à braquer en famille.
Du coup, ben, c'est une comédie qui est beaucoup plus sérieuse qu'elle n'en a l'air, parce qu'elle aborde des sujets assez compliqués comme les relations familiales ou encore le système pénitentiaire, mais elle les aborde avec beaucoup d'humour, ce qui fait que c'est quand même une comédie drôle, même si elle aborde des sujets assez compliqués.
C'est vrai qu'on arrive quand même à avoir des touches d'humour et de comédie, et on arrive à rester quand même dans un sujet assez sérieux dans le fond. On ne s'en rend pas forcément compte quand on voit le film, mais on s'en rend compte plutôt après l'avoir vu, en se disant « Ah, mais en fait, ça parlait de telle chose, de telle chose, de telle chose », avec justement ce côté comique.
Mais c'est vrai que je pense que toute la classe, quand on allait le voir, toute la salle a rigolé au moins plusieurs fois devant le film.
Alors aussi, ce qu'on remarque dans ce film, il ne va pas parler que de sujets sérieux, il y a aussi une histoire d'amour tout d'abord.
Déjà, Abel, c'est un jeune veuf qui a perdu sa femme, Maud, et qui est devenu très proche de sa meilleure amie, Clémence. Et c'est un peu une histoire d'amour. Au début, du coup, on les voit en tant que meilleurs amis tous les deux, et puis finalement, on se rend compte au fur et à mesure que c'est pas forcément que de l'amitié qui est entre eux.
On se rend compte qu'ils tombent amoureux l'un d'entre eux et on s'en rend compte même un peu avant qu'eux s'en rendent compte. Et justement, on attend ce moment avec impatience, le moment où ils vont s'embrasser, quoi.
Ce qui est très intéressant aussi dans ce film, c'est que bah, déjà, c'est des acteurs qui jouent très bien la comédie, mais surtout, c'est des acteurs qui, dans le film, jouent encore un rôle. On a des scènes où les acteurs, enfin, où les personnages, justement, apprennent le rôle qu'ils vont devoir jouer lors du braquage après, où on retrouve des scènes où, du coup, les acteurs doivent rejouer un rôle en plus dans le film, et c'est ça qui est très intéressant.
Justement, oui, on a une mise en abîme du métier d'acteur dans ce film et ça permet aussi, je pense, de faire découvrir le métier à certains jeunes, justement, qui regardent le film et qui doivent se dire que, du coup, c'est cool et voilà.
Bonjour, je m'appelle Maëlys.
Et moi, c'est Kim.
Donc aujourd'hui, nous allons vous donner notre avis sur le film Revoir Paris de Alice Winocourt. Donc tout d'abord, j'ai trouvé que ce film, il était très intéressant pour le coup, parce qu'il nous donne un avis et surtout un point de vue sur les attentats des terrasses. Même nous, nous sommes jeunes et nous n'avons pas pu savoir ce qui s'est réellement passé. Et donc ça nous a vraiment informés sur ce qui s'est passé.
J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il soit profond, avec les sons, par exemple, à un moment, les sons, ils étaient forts pendant la fusillade et c'était vraiment choquant. Et ensuite, ça s'arrêtait d'un coup, on voyait vraiment qu'ils avaient peur. Et aussi, les acteurs, ils jouaient bien leur rôle, j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, je peux trouver aussi un autre point que j'ai beaucoup aimé, finalement, c'est le réalisme que va apporter ce film. Il va nous présenter la capitale de Paris sous ses plus beaux jours, avec son luxe, avec des plans qui sont bien détaillés. J'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs. Et après, il va aussi nous montrer un autre côté de Paris qui va être finalement un côté un peu plus délabré, avec des sans-abri. Et ça va nous donner deux points de vue différents sur Paris. Donc c'est assez particulier, j'ai beaucoup aimé ça.
J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce film il soit porteur d'espoir, parce que on a pu voir tout au long du film Mia qui cherche ses souvenirs, ce qui s'est passé pendant l'attentat, parce que en fait on suit mais vraiment avec elle toute l'histoire. Et on a vu à un moment qu'elle rencontre Thomas et ils vont rigoler, s'amuser. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ça.
D'ailleurs, cette rencontre va vraiment nous toucher finalement, parce que ça va nous montrer en quelque sorte que malgré un événement terrible, on peut se reconstruire juste après ça. C'est beau, ça va apporter une leçon de vie.
Et donc ce film, s'il est aussi touchant, c'est aussi parce que c'est le frère de Alice Winocourt qui a vécu un attentat dans les Balkans, au Bataclan. On peut voir toutes les émotions, les sentiments que son frère a ressentis, parce que c'est les témoignages de lui-même en fait.
Donc vraiment, ce travail long et dur de récupérer les témoignages, mais aussi de savoir comment son frère, du coup, de Alice Winocourt, s'est reconstruit, ça nous apporte donc cette touche de réalisme et qui va tout simplement nous toucher. C'est ça qui est magnifique dans ce film. Il faut rappeler que du coup, que quand même, Revoir Paris a été sélectionné comme le meilleur film par le prix Jean Renoir des lycéens 2023. Donc je pense que finalement, cette touche de réalité dans le film a tout apporté et a fait son charme.
Bonjour, moi je m'appelle Charlotte.
Bonjour, moi je m'appelle Clémence.
Et on va vous parler du film The Fableman de Steven Spielberg.
Donc en fait, il y a toute la classe qui a adoré ce film. C'est pour ça qu'il avait été choisi justement. C'est une sorte d'autobiographie du
du réalisateur.
De Spielberg.
Et donc nous, on l'a vraiment aimé parce qu'on a trouvé qu'il envoyait des messages très beaux, des messages très forts. Il parlait notamment du fait de suivre ses rêves, de toujours vouloir un bonheur, qu'il n'y ait pas de mauvais choix dans la vie. Toute notre vie, nous pouvons faire des choix, il n'y en a aucun qui sont mauvais. On y voit par exemple une femme qui va quitter son mari parce qu'elle se rend compte qu'elle est malheureuse avec lui et ce n'est pas un mauvais choix. On essaie vraiment de l'excuser et de donc mettre en priorité le bonheur dans nos vies. Et donc c'était vraiment un beau message qu'envoyait le film.
On voit aussi donc une leçon de vie qu'il faut jamais en fait abandonner, que quoi qu'il en soit on peut toujours y arriver même s'il y a des périodes compliquées dans notre vie, et ben on peut quand même y arriver et faire ce qu'on veut.
Le film est extrêmement long, enfin 2h30, et c'est parce qu'on y voit vraiment donc plusieurs parties de la vie de Steven Spielberg. On y voit son enfance, donc comment il commence dans le cinéma, la place qu'a le cinéma dans toute sa vie, et donc comment ça le suit au cours de sa vie, parce qu'on a son enfance, son adolescence, et après on le voit plus jeune adulte. Et donc le film est vraiment long, ça peut aussi être un petit peu une critique, mais on ne s'ennuie pas, je pense, Clémence, tu pourras en parler, mais je trouve qu'on ne s'ennuie pas du tout, et c'est vraiment... important parce que s'il n'y avait pas toutes ces parties de sa vie, il manquerait peut-être quelque chose au film.
C'est vrai que comparé à d'autres films qu'on a vus, il y avait certains moments de silence qui étaient plutôt longs ou là, il n'y en a pas, ou quand il y en a, c'est vraiment nécessaire. Et ce film, il est tout le temps dynamique, il y a tout le temps quelque chose qu'on apprend, etc. Donc il n'y a pas de silence ou de moments de blanc, en fait, ennuyeux, on va dire.
On voit vraiment qu'il y avait un certain budget et que Steven Spielberg a une expérience parce qu'il y a les musiques, il y a... Donc les moments de silence bien choisis, les images qui sont très belles, des fois très poétiques, etc. Et donc on voit vraiment l'expérience aussi de Steven Spielberg et qui s'est fait plaisir avec ce film. On voit vraiment que le fait de filmer chaud, c'est une solution pour lui. C'est un petit peu sa manière de canaliser ses émotions, sa manière de se calmer, sa manière d'aller mieux, entre guillemets. Et on voit aussi que c'est quelque chose de famille avec son grand-père, un moment qui parle de l'art notamment et de la place qu'il a dans sa vie. Et donc on y voit vraiment l'importance de l'art pour certaines personnes comparée à d'autres, parce qu'il y a aussi son père qui n'est pas du tout sensible à ça.
Oui, puis sa manière de se sentir lui-même en fait là où il est en tant que réalisateur en train de faire des films, etc. Ouais.
Personnellement, moi, le prix Jean Renoir, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a vraiment ouvert au cinéma. Au niveau culturel aussi, moi, je trouve qu'il m'a vraiment appris, notamment par exemple avec un film comme Mon pays imaginaire qui était très touchant. Donc vraiment, il m'a vraiment ouvert culturellement au cinéma parce que c'est quelque chose auquel j'étais pas vraiment sensible, j'ai pas été vraiment éduquée à ça. Et ça a été, je pense, un vrai déclic par rapport au cinéma. Maintenant, j'adore ça et j'ai envie d'aller voir de plus en plus de films, etc.
Mais moi, pareil, en fait, à la base, je vais pas souvent au cinéma ou même... lire, etc., c'est pas trop mon truc, mais avec le prix Jean Renoir, le fait de voir tous ces films et de justement faire des critiques dessus, de parler dessus, etc., je trouvais ça super intéressant et du coup j'ai adoré. Franchement, si c'était à refaire l'année prochaine ou je sais pas, je le referais.
Ça a vraiment permis d'intellectualiser les films et donc de mieux les comprendre et peut-être même de mieux les apprécier des fois.
Et même améliorer notre culture à nous, en fait, d'en apprendre plus sur des films, etc., et même des réalisateurs.
Voilà, c'était vraiment une expérience très, très enrichissante. Et puis, bien sûr, nous avons pu visiter Paris dans le cadre de ce prix. Donc, ce qui nous invite vraiment à remercier toutes les parties organisatrices, le cinéma Alain René, nos professeurs et bien sûr la radio RPH.
Donc, nous vous invitons à aller voir tous les films qui étaient tous magnifiques, qui renvoyaient tous des leçons de vie et à faire réfléchir. Donc, au cinéma Alain René.
Éclatez-vous, allez au cinéma parce que c'est super bien.